Merci beaucoup, Shmuel Trigano. Je vous remercie de m'avoir convié à ce colloque. Je dis tout de suite que les quelques propos que je souhaite tenir sont très loin de pouvoir épuiser ce qu'il y a à dire sur la figure juive chez Deleuze, qui a évidemment de multiples aspects. Et je voudrais simplement souligner un certain nombre de points en léger décalage par rapport à cette configuration que vous avez dessinée tout à l'heure, léger décalage dans la mesure où je vais mettre l'accent principalement sur les textes pro-palestiniens de Deleuze et sur un certain nombre des énoncés les plus étranges, d'une certaine manière, chez un philosophe de son acabit, que l'on trouve sous sa plume. Donc ce seront quelques textes, des citations, des références, presque des éléments factuels, et peu d'interprétations, à part, bien évidemment, quelques hypothèses ou lignes de perspective que je tenterai de dessiner pour finir. Les textes pro-palestiniens de Gilles Deleuze, dont je vais parler, sont peu nombreux, trois en fait, je les donnerai les références tout à l'heure, ils ont été peu commentés, à l'exception notable d'un article excellent d'Éric Marty, Foucault, Deleuze, les Juifs et Israël, publié dans le premier numéro de la revue Le Meilleur des Mondes en septembre 2006. Ce que je souhaite mettre en lumière, c'est qu'on trouve dans ces textes de Gilles Deleuze, qui sont parus entre 1982 et 86, des points essentiels de l'antisionisme le plus virulent et le plus destructeur. Des énoncés qui, rapportés à la figure juive, relèvent soit de la bêtise, soit de la mauvaise foi, soit de la haine, soit de la désinformation, soit des quatre à la fois, ou de tel ou tel de ces quatre éléments. Ce qui, évidemment, fait problème chez un philosophe qui se réclamait de Nietzsche, en disant que la tâche de la philosophie était de nuire à la bêtise, qui préférait, comme Spinoza, l'amour et la joie à la haine et à la tristesse. Avant de regarder ces textes, je voudrais faire un bref détour par deux versants. Premier de ces versants, le Juif riche, titre d'un texte paru de Deleuze, paru dans le journal Le Monde du 18 février 1977. Ce texte, comme tous les autres dont je parlerai ce matin, à l'exception de ceux sur Spinoza par exemple, mais les articles dont il est question sont tous rassemblés dans le recueil des textes de Gilles Deleuze entre 1975 et 1995, rassemblés par David Lapoujade aux éditions de Minuit en 2003 et intitulés globalement « Deux régimes de fous, textes et entretiens 1975-95 ». Ce texte, donc, du 18 février 1977, intitulé « Le Juif riche », a pour objet, chez Deleuze, de défendre la libre projection d'un film, lequel film venait d'être interdit quelques jours plus tôt, le 13 février 1977, par le ministère de la Culture, à la demande de la Ligue contre l'antisémitisme. Ce film du réalisateur allemand Daniel Schmid, intitulé en français « L'ombre des anges »,« Schatten der Engel », avait été coécrit avec Fassbinder, qui joue d'ailleurs dans le film, et le scénario adapte une pièce du même Fassbinder qui parle de l'Allemagne avec la Shoah, après la Shoah. Je ne vais pas entrer ici dans l'histoire de la pièce, ni même du film, ni même de la polémique suscitée par son interdiction, mais je voudrais simplement insister sur ce que fait et dit Deleuze dans ce texte. Il pourrait s'agir d'une simple défense contre un acte de censure, liberté d'expression, liberté des cinéastes, liberté des créateurs, liberté de la diffusion. Pourtant, et pour rester dans le cadre de notre réflexion de ce matin, il faut souligner la manière dont Deleuze expose dans cet article les éléments du film et ses propres arguments pour réfuter les accusations d'antisémitisme pour souligner ce qu'il appelle, je cite, « l'inanité radicale de l'accusation », en ajoutant aussitôt, je recite, « on croit rêver ». Il reconnaît dans ce texte un certain nombre de faits en disant « il est bien vrai que les mots « le juif riche » sont souvent prononcés pour désigner un personnage ». Il nous apprend un peu plus loin dans ce texte que dans le film sont prononcés des énoncés nazis, des déclarations antisémites, ces deux expressions sont de Deleuze, notamment par une chanteuse travestie qui se trouve précisément être un ancien nazi. Alors, jusque-là, tout le monde admettra bien volontiers que de tels énoncés et déclarations ne rendent pas nécessairement pour autant le film antisémite. Ce n'est pas parce qu'il y a des nazis dans un scénario que l'œuvre en elle-même le devient. Mais il y a autre chose qui est précisément le syntagme « juif riche ». Et c'est là que vient se nouer la question. Deleuze indique que la fortune du personnage ainsi nommé, je cite, « vient de l'immobilier ». Et il parle du métier qu'il fait, le personnage, expulsion, tiens, destruction, tiens, spéculation, tiens, les tiens sont de moi. Importante précision qui est sans doute destinée à bien faire comprendre combien ces détails sont innocents, Deleuze insiste en disant « le juif riche doit sa richesse à un système qui n'est jamais présenté comme juif, mais comme celui de la ville, de la municipalité et de la police ». Nous voilà donc bien rassurés. Où est l'antisémitisme, dit Deleuze, où peut-il bien être? Et il ajoute « on se frotte les yeux, on cherche, est-ce le mot juif riche ?» Curieusement, juif riche, sous la plume même de Deleuze, vous venez de l'entendre, devient un seul mot. Alors que la question à prendre en compte, c'est bien évidemment le couplage de ces deux mots. Or, c'est cela qu'il ne prend aucunement en compte. C'est-à-dire qu'il laisse délibérément de côté cet immense arrière-plan historique où le couplage haine des riches, haine des juifs, a constitué, ce n'est pas la peine de commenter longtemps cela, le ferment constant ou un des ferments puissants de l'antisémitisme depuis le Moyen-Âge jusqu'au nazisme et jusqu'à notre actualité, puisque l'assassinat d'Ilan Halimi par le gang des barbares était autour aussi des suites de ce syntagme juif, donc riche. Voilà, me semble-t-il, qui suffit à signer un énoncé banalement, classiquement, bêtement, mais indiscutablement antisémite. Mais Deleuze se frotte les yeux. Et je peux dire que nous aussi, à notre tour, parce que son argument consiste à dire « on a bien le droit d'employer le mot juif ». Je résume. Voilà un terme qui figure, dit-il, dans les dictionnaires. Sont-ils antisémites tous ceux qui prononcent le mot juif ? Cet argument serait proprement pitoyable si il ne devenait proprement odieux lorsqu'il dit que le seul emploi qui resterait légitime ou inattaquable serait, au sujet de la Ligue contre l'antisémitisme, les discours aux morts où on pourrait, en ce cas, utiliser sans se faire poursuivre le terme juif. Alors, cela me semble donner l'occasion de montrer la totale cécité qui paraît être celle de Deleuze concernant une définition possible de l'être juif, de la réalité juive et des manières de la désigner. Car il pose cette curieuse question, qui me semble être une question à lire ou à entendre comme un symptôme, que dire d'un juif qui n'est pas israélite, ni israélien, ni même sioniste ? Se dit même sioniste étant un poème absolu. Il demande cela d'une manière qui se veut ironique, mais qui est suivie d'une autre phrase, qui elle met en scène, sans surprise, Spinoza. Que dire de Spinoza ? Le philosophe juif, exclu de la synagogue, fils de riches commerçants, et dont le génie, la force et le charme n'étaient pas sans rapport avec ce fait qu'il était juif et se disait juif. On pourra donc dire Spinoza, juif riche, sans être soupçonnable du moindre antisémitisme. Pourtant, et je passe sur le deuxième des versants préalables, le versant Spinoza, quand Deleuze parle de Spinoza, ce qui, comme chacun sait, lui est arrivé très souvent, il ne semble pas que ce fait qu'il était juif soit une situation clairement définie, ni même véritablement situable. Merci beaucoup. Il semble au contraire, et bien sûr, il faudrait une étude longue, détaillée, pour le préciser dans tous les méandres, mais il semble au contraire, globalement, que Deleuze ait eu quelques difficultés, pour dire le moins, avec la judéité de Spinoza, comme si le terme « juif » le mettait plus ou moins mal à l'aise. On en peut trouver des indices multiples, mais un exemple, la manière dont il parle, ou ne parle pas, de Spinoza et de sa judéité dans « Spinoza, philosophie pratique », qui est reparu récemment aux éditions de Minuit. On lit ceci, c'est un texte pour étudiants, simple. « Baruch de Spinoza, né en 1632, dans le quartier juif d'Amsterdam, d'une famille de commerçants aisés, d'origine espagnole ou portugaise. Juif le quartier, espagnol l'origine, riche la famille. » Un commentaire détaillé de cette page permettrait de montrer que judéité et commerce ont constamment partie liée et que s'oppose aux yeux de Deleuze, je cite, « la culture philosophique, scientifique et médicale d'une famille de Marane et ce qu'il appelle le judaïsme rabbinique traditionnel. » Il faudrait montrer, mais il faudrait du temps, mais j'indique la direction, que pour Deleuze, Spinoza est évidemment la figure du juif que je dirais intéressant, parce que, exclu de sa communauté, fier de s'opposer au rabbin, faisant l'apologie de sa propre exclusion, refusant l'héritage de son père, enfin plus d'argent, choisissant l'errance, le nomadisme, les chambres meublées et aussi la grammaire hébraïque contre les prophètes. Mais nous n'avons pas fini de nous frotter les yeux. Il se pourrait que même nous ne fassions que commencer. En effet, en lisant ce que j'appelle pour faire court les textes pro-palestiniens publiés par Deleuze, on ne trouve pas seulement l'essentiel de la matrice des discours de l'antisionisme radical jusqu'à aujourd'hui, mais aussi quelques énoncés proprement exorbitants, comme celui que j'ai pris pour titre à cette intervention « C'est une histoire qui comporte beaucoup d'oradour ». C'est l'histoire de la guerre de Palestine, et même plus généralement des relations entre Israéliens et Palestiniens. Une histoire qui comporte beaucoup d'oradour. Les textes, je vais dire tout de suite où cela se trouve, mais les textes concernés sont, premièrement, les Indiens de Palestine. C'est un entretien avec Elias Sambar, fondateur de la revue d'études palestiniennes, ami de Deleuze, qui a été publié par Libération dans un numéro daté 8-9 mai 1982. Grandeur de Yasser Arafat, texte le plus long et le plus construit, où figure cet énoncé, une histoire qui comporte beaucoup d'oradour, et qui est daté de septembre 83 et publié par la revue d'études palestiniennes dans son numéro 10, hiver 84. Enfin, Les pierres, texte daté de juin 88, paru en arabe, à la demande, écrit à la demande des responsables de la revue, dans la revue Al-Carmel en 88. Je ne vais pas entrer dans le commentaire ligne à ligne, qui serait souhaitable, mais qui est incompatible avec le temps qui nous est imparti. Je voudrais simplement rappeler l'enchaînement thématique des représentations qui sont mises en œuvre dans ces textes. On peut, pour faire court, les réduire à quatre. Première représentation, les Palestiniens sont pensés sur le modèle des Indiens d'Amérique. C'est-à-dire que les Juifs construisent Israël comme les colons européens conquérant les terres américaines, exterminant les indigènes autochtones, s'emparant par la force et par la terreur de biens et de territoires qui ne leur appartiennent pas. Deuxième représentation, comme il est un peu difficile de faire des Israéliens de purs Irlandais qui colonisent l'Ouest, alors il est précisé qu'ils font subir à d'autres ce qu'ils ont eux-mêmes subi en tant que tentative de génocide, et qu'ils tentent, dit explicitement Deleuze, de faire payer aux Palestiniens la dette infinie que l'Europe a envers eux. Thème aussi qui a une longue postérité. Troisième représentation, les rabbins fous d'Israël, les rabbins fous, c'est Deleuze qui dit ça, ont inventé une ruse suprême qui est de faire passer pour antisémites ceux qui contestent l'existence même de l'État d'Israël et qui combattent le génocide perpétré sur le peuple palestinien par un terrorisme d'État, lui-même soutenu par un terrorisme religieux. Là aussi, l'air est connu. Quatrième et dernière de ces représentations, à l'opposé du destin hors norme d'Israël, il y aurait une ambition du peuple palestinien à devenir seulement, je cite, un peuple comme les autres, en paix sur sa terre, échappant enfin aux actes de violence et aux injustices dont il est victime. Dans ces quatre points, encore une fois, chacun aura reconnu les pôles du discours de propagande anti-israélien le plus virulent, qui est devenu presque banal depuis une vingtaine d'années, notamment chez bon nombre d'intellectuels français, en dépit des contre-vérités monstrueuses sur lesquelles ils prétendent se fonder. Ce n'est pas le lieu de démonter ce discours, ce qui a déjà été fait 100 fois et qui reste évidemment à recommencer, mais je voudrais simplement mettre l'accent sur un paragraphe que je juge particulièrement odieux, le deuxième paragraphe du texte de Deleuze intitulé « Grandeur de Yasser Arafat ». Le voici, il n'a que quelques lignes, je vous le lis en entier. On dit que ce n'est pas un génocide que Israël commet en Palestine. Et pourtant, c'est une histoire qui comporte beaucoup d'oradours depuis le début. Le terrorisme sioniste ne s'exerçait pas seulement contre les Anglais, mais sur des villages arabes qui devaient disparaître. L'Irgun fut très actif à cet égard, parenthèse, Der Yassine, fermez la parenthèse, d'un bout à l'autre, il s'agira de faire comme si le peuple palestinien non seulement ne devait plus être, mais n'avait jamais existé. Alors le minimum qu'on puisse attendre d'un philosophe, me semble-t-il, c'est de ne pas se servir des mots n'importe comment. Le mot ou le nom propre oradour, Oradour sur Glane, désigne le plus grand massacre de civils commis en France le 10 juin 1944 par des nazis. Des centaines de femmes, d'enfants, 640 je crois, et d'hommes de plusieurs villages de la campagne française, le Limousin, de Leuzin, une maison pas loin, etc., furent assassinés au fusil mitrailleur, alors que d'autres étaient parqués dans l'église et ont été brûlés vifs. L'objectif de la SS, qui participait à ce plan, était d'exécuter un plan qui a été conçu de sang-froid et dont l'objectif était, comme tous les historiens l'ont établi, de produire un effet maximal de terreur, c'est dans les rapports allemands, sur la population. En parlant d'un oradour, on veut donc désigner, me semble-t-il, un massacre d'innocents commis froidement par une armée d'occupation qui fait irruption sur un territoire où vivent paisiblement des indigènes, ou des autochtones, qui les emprisonne dans un lieu, et certains dans un lieu de culte, et qui les fait brûler vifs pour terroriser toute la région. Voilà ce qu'évoque le nom d'Oradour, en y ajoutant évidemment la cruauté des nazis, leur impassibilité vis-à-vis des massacres, bref, leur barbarie. Dire que la guerre pour l'indépendance d'Israël est une histoire qui comporte beaucoup d'Oradour, c'est d'abord dire que les Juifs sont des nazis et que les Palestiniens sont des Français innocents, croirait du Raymond Barre. Mais c'est dire plus encore que les Juifs sont pires que les nazis. Il n'y eut en France qu'un Oradour qui n'eut rien à voir avec un génocide. Il y a en Palestine beaucoup d'Oradour qui auraient pour but d'exterminer le plus de Palestiniens possible. Il faut quand même s'arrêter une minute sur ces énoncés sous la plume d'un philosophe qui, une fois encore, ne se signale pas généralement par son idiotie ni par son ignorance. Où donc a-t-on vu des unités de l'armée israélienne parquant de sang-froid des centaines d'enfants, de femmes et d'hommes palestiniens dans la mosquée de leur village avant d'y mettre le feu? Le massacre de Deir Yassin, qui s'est produit le 9 avril 1948 pendant la guerre de Palestine, est l'exemple que Deleuze veut mettre, si l'on comprend bien, en l'indiquant entre parenthèses, en superposition avec Oradour. Je laisse à d'autres commentateurs, plus qualifiés que moi et plus qualifiés que Deleuze aussi, d'expliquer ce que fut l'histoire de l'Irgun à cette époque. Mais, aussi peu historien que je sois, il me semble possible de rappeler qu'il est de notoriété publique que le village de Deir Yassin, à 5 km de Jérusalem, a fait l'objet, ce jour du 9 avril 1948, d'un combat entre deux factions en guerre, combattants palestiniens d'un côté et combattants de l'Irgun et du Lehi de l'autre côté, ce qui n'a rigoureusement rien à voir avec la situation d'Oradour. Il est exact que le village a été pris d'assaut et qu'il a été ensuite, comme disent les militaires, nettoyé, maison par maison, et qu'une centaine de civils palestiniens, enfants, femmes et hommes ont été tués dans cette opération ce jour-là. Mais on ne saurait oublier, ce qui fait une autre différence majeure, que ce massacre fut condamné aussitôt par Ben Gurion, par la Haganah, par le Grand Rabbinat, par l'Agence juive. Enfin, il faut souligner qu'il ne s'agissait nullement, tout le monde l'aura compris, de faire disparaître ce village, comme les SS avaient prémédité pour leur part de liquider Oradour. Bref, beaucoup d'Oradour, ce sont quelques mots de trop. La question est de savoir comment ces mots de trop et les autres ont été possibles. Plus généralement, comment comprendre que Deleuze, qui encore une fois fut tout sauf idiot, ait pu confondre Arafat avec, je cite un personnage de Shakespeare, les Juifs d'Israël avec des nazis, la Palestine avec l'Amérique du Nord, une guerre d'indépendance avec un génocide, des combattants palestiniens qu'on peut évidemment avoir comme amis ou comme ennemis, avec la figure de l'autre, avec un grand A. À ces questions, il y a deux types de réponses possibles. Le premier type de réponse insistera sur la contingence, les amitiés, le caractère finalement accidentel de telle ou telle prise de position, l'extériorité de textes et de circonstances envers un noyau dur de la réflexion philosophique. Dans cette hypothèse, on devrait passer ces articles au compte de pertes et profits de ce que Deleuze appelait ses activités gauchistes ordinaires. Soutenir les attentats de Munich, prendre parti pour la fraction armée rouge, célébrer la grandeur d'Arafat, traiter des juifs de nazis, tout cela formerait alors un ensemble, disons, soit de traits de caractère, soit d'activités circonstance, il y a une sorte d'idiosyncrasie personnelle qui serait ou demeurerait sans lien pertinent avec l'œuvre. Ceux qui ont été, comme moi, liés d'amitié avec Deleuze peuvent en être attristés. Ceux qui l'ont admiré peuvent en être déçus. Ceux qui eurent le sentiment, en lisant Deleuze, d'être plus intelligents que d'habitude peuvent se dire que ce n'est pas toujours le cas, etc. Dans cette hypothèse, il reste possible de scinder radicalement ces petits articles et puis des analyses philosophiques plus cruciales. On regrettera que la grandeur du philosophe cautionne les aveuglements du militant, mais on admettra par hypothèse qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Est-ce si sûr? Est-ce si simple? Pour ma part, je ne le crois pas. Je pense que l'autre type de réponse à élaborer consiste à s'interroger sur ce qui, à l'intérieur de sa pensée la plus radicalement philosophique, peut permettre à Deleuze soit d'être porté à ce type de confusion, soit, ce qui serait différent, de n'être pas empêché d'y tomber par sa propre pensée. Vous imaginez bien qu'il y a là matière à des analyses longues, détaillées, qui excèdent les quelques minutes qui me restent. Toutefois, il est possible d'indiquer dans quelle direction ces analyses auraient à se développer. Il serait sans doute important de mettre en relation les malaises que Deleuze semble éprouver envers la figure juive sous plusieurs formes, Spinoza, Kafka, les Israéliens, et sans doute d'autres. Je pense aussi à ce qu'il dit du rapport juif à l'écriture et à la loi dans Mille plateaux. Mettre ces différents textes en rapport avec sa propre relation au multiple, plutôt qu'à l'un, au devenir, plutôt qu'à l'être, aux agencements aléatoires, plutôt qu'au parcours historique, collectif ou individuel. N'y aurait-il vraiment aucun lien entre l'antisionisme forcené de ces textes, de circonstances, admettons-le, et la méfiance philosophique de Deleuze envers toute pensée de la loi, de la lettre, de la transmission? Ne devrait-on pas mettre en rapport son aveuglement envers l'antisémitisme du syntagme juif riche et sa cécité envers la richesse réelle du judaïsme, aussi bien dans l'héritage intellectuel de Spinoza que dans l'histoire mondiale de la philosophie? Le risque pour les minoritaires, c'est précisément de se ré-territorialiser ou de se laisser ré-territorialiser sur une minorité comme État. Car devenir minoritaire, dit-il, ça n'est pas devenir un ensemble définissable par rapport à la majorité, mais c'est produire un mouvement où l'on est constamment minoritaire dans une plus grande, j'ajoute moi, totalité. Ainsi, dit Deleuze, ou plutôt disent Deleuze et Guattari, une femme a à devenir femme, mais dans un devenir femme de l'homme tout entier. Un juif devient juif, mais dans un devenir juif du non-juif. Voilà, justement, qui n'est pas évident. C'est en tout cas, par hypothèse, une piste à suivre, une des pistes qui reste à explorer. Ce sera pour un autre jour. Je vous remercie.